RFI.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. La SNCF, la société ferroviaire française, est touchée par une nouvelle grève ce mercredi, la seconde en moins d'une semaine. Cette fois, il s'agit de faire pression sur les salaires, alors qu'aujourd'hui, précisément, s'ouvrent des négociations sur le sujet à la SNCF, où la dette s'élève à 24,3 milliards d'euros. Mais c'est une situation que l'on retrouve dans les autres services publics français, eux aussi largement déficitaires. Mais jusqu'où peuvent-ils l'être déficitaires? Les services publics doivent-ils être rentables? Voilà notre question ce soir. Nous verrons comment la fameuse mission de service public peut être encadrée et comment ça se passe à l'étranger. Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour.
RFI.
Et pour répondre à toutes ces questions, nos trois invités d'abord à mes côtés en studio, Lucie Casté, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du collectif Nos Services Publics. Face à vous, Pierre Bobby, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de l'IEP de Paris, spécialiste de l'action publique et des services publics en France et en Europe, président de l'association Reconstruire l'action publique, et puis votre livre Service public au singulier, virgule, service public au pluriel. Je peux le présenter comme
ça. Je ne suis pas directeur, je suis docteur de l'IEP.
Docteur de l'IEP de Paris. J'ai dit directeur ?
Oui.
Alors j'avais écrit docteur, autant pour moi. Docteur de l'IEP de Paris. Notre troisième invité, Jean-Hervé Lorenzi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du Cercle des économistes. Merci à vous trois.
Je suis fondateur et
décidément.
Je m'occupe des rencontres. Non, mais c'est pas bien.
On avait vérifié pourtant au préalable.
Oui, ben vous voyez, les vérifications doivent être encore revérifiées. Et tout ça pour rajouter que je m'occupe surtout des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui sont un événement un peu, disons, c'est le plus gros événement économique en France.
Eh bien, merci beaucoup. Et soyez, vous trois, les bienvenus dans le débat du jour. On va commencer tout de suite avec cette grève, là, justement, qui commence à la SNCF. Je disais, c'est la deuxième en moins d'une semaine. Lucie Casté, comment vous jugez cette grève qui se déroule aujourd'hui à la SNCF?
Par principe, je ne juge pas une grève, mais je pense qu'en effet, c'est intéressant de remarquer, comme vous l'avez fait en introduction, que c'est un phénomène, que c'est une situation qui n'existe pas que à la SNCF. L'expression d'un besoin de moyens supplémentaires, c'est une situation qui est partagée dans tous les services publics aujourd'hui. On aura l'occasion d'y revenir. Mmh. Mais aujourd'hui, vous savez, ce genre de revendications, qui sont d'ailleurs pas des revendications seulement en termes de moyens, c'est vraiment important de le noter, mais aussi en termes de sens qu'on donne à l'action publique, qui sont partagés dans tous les secteurs de l'action publique. Je pense notamment aux hôpitaux, aux écoles et à bien d'autres secteurs de l'action publique.
Pierre Bobby, c'est le 14e mois de décembre perturbé à la SNCF en moins de 20 ans. Depuis le début de l'année, il y a eu une trentaine de mouvements sociaux à la SNCF. Donc je vais vous poser la même question à vous, mais qui êtes expert de ces sujets des services publics. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette nouvelle grève à la SNCF?
Il y a le droit de grève qui est constitutionnel, qui est le cas et qui marche dans tous les services publics aussi. Donc ça, c'est une première chose. Une seconde chose, c'est que quand on fait grève, c'est qu'a priori, le dialogue n'est pas possible. Le conflit d'intérêts, l'opposition.
Alors la SNCF affirme qu'elle fait grève alors que s'ouvrent aujourd'hui les négociations sur les salaires et que c'est pour faire peser sur ces négociations qui s'ouvrent. Donc c'est une pression avant même que les négociations débutent.
Justement, on a une vision spécificité française. Dans d'autres pays, il y a aussi des grèves. Il y en a eu récemment dans les chemins de fer britanniques ou en Allemagne. Bon, donc c'est pas une spécificité. Le fait de le faire sans, au moment même où s'ouvre le dialogue, c'est vraiment une spécificité française. Nous n'avons pas de culture du dialogue, mais nous avons une culture de la confrontation.
Jean-Hervé Lorenzi, je vous pose la même question qu'à nos deux premiers invités. Ça vous inspire quoi, vous qui êtes fondateur du Cercle des économistes, cette grève?
Ça m'inspire de l'exaspération. Moi, je veux bien qu'on explique que c'est une spécificité française. J'ai participé à de nombreux débats sur le sujet où on en revient toujours. C'est vrai que c'est une spécificité française et mais pas du tout contre ça. Je suis absolument favorable à des services publics, mais au fond, cette confrontation met quand même énormément de gens, y compris des gens qui ont vraiment besoin de bosser en difficulté. Non, je veux dire, c'est évidemment très exagéré. En plus, je trouve que les gens de la SNCF se trouvent dans des situations qui ne sont pas si dramatiques que ça. Donc, non, c'est très exagéré. Je dirais la même chose si c'était une boîte privée qui avait une mission, il y avait une délégation de service public. C'est pas le fait que ce soit public, c'est le fait que les gens en ont besoin pour leur vie quotidienne et que c'est un espèce d'équilibre subtil entre l'usager. Vous avez remarqué que je ne parle pas de client, entre l'usager et le fournisseur du service, honnêtement, on peut trouver un équilibre qui soit plus favorable à soi qu'on assiste.
Lucie Castel, vous semble justifier cette grève. Je reviens dessus parce qu'on parle des salaires. Les négociations s'ouvrent aujourd'hui, donc il n'y a pas encore besoin de négocier. Les négociations débutent. Les salaires, cette année, des cheminots ont augmenté de près de 6%. Et dans ce contexte-là, il y a une grève. Alors, Jean-Hervé Lorenzi a fait référence au privé. Moi, je disais, 30 mouvements sociaux à la SNCF depuis le début de l'année. 1,2% des sociétés françaises ont enregistré au moins un jour de grève. Les dernières données du ministère du Travail, c'est 2020.
Oui, alors, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment élargir le débat sur la situation du service public en France. Et pas spécifiquement parler de cette grève-là à la SNCF aujourd'hui.
On peut parler des grèves qu'il peut y avoir dans d'autres secteurs, effectivement, l'éducation
nationale,
la santé.
Oui, ou parler des mouvements sociaux qui sont suscités par la situation des services publics. Et je pense que c'est vraiment ça dont il faut qu'on parle aujourd'hui, parce que c'est ça qui nous intéresse, à mon avis, au-delà de la question de l'irritation que ça peut provoquer chez certains. Mais par exemple, quand on a des infirmières qui nous disent qu'elles sont passées de 6 à 12 personnes à prendre en charge, quand on a des juges des enfants qui nous disent qu'ils doivent renouveler des mesures sans voir les familles, sans même voir les familles, sans parler aux familles, quand on a des classes qui ferment, des maternités qui ferment, des bureaux de la CAF qui ferment, etc. Je pense qu'on peut collectivement constater que les services publics sont dans une situation extrêmement difficile et que ce qui s'exprime par les divers mouvements sociaux que l'on constate ces derniers mois, et ils sont très larges, ça concerne la SNCF, mais ça concerne aussi les magistrats, ça concerne beaucoup de corps et beaucoup d'agents publics. Ce qui là s'exprime, c'est une sorte d'exaspération face au manque de moyens, et c'est pas seulement un manque de moyens financiers pour les agents, c'est pas simplement leur salaire, c'est aussi un manque de moyens pour faire correctement leur travail. Et ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important, et je pense que dans les revendications, c'est encore plus important que leur salaire individuel, leur traitement, comme on dit, dans la fonction publique.
On va parler des difficultés qu'il y a dans le service public, mais quand je vous pose la question, est-ce que c'est pas finalement... est-ce que ça ne vous semble pas exagéré, ce mouvement de grève, ces mouvements de grève, à répétition, on va dire, dans la SNCF, rapport à ce qui peut se passer dans le privé, est-ce qu'il n'y a pas le risque de donner une impression de favoritisme dans le public? Alors, par exemple, le départ anticipé pour les cheminots de la SNCF, c'est entre 50 et 57 ans, quand c'est 62 ans en moyenne pour le reste de la population. Jusqu'où peut aller cette exception de service public?
Je pense que ce qu'il faut regarder, et M. Lorenzi le disait très bien, ici, la SNCF s'adresse à des usagers et pas à des clients. Et donc la question, c'est, je pense que les cheminots s'inquiètent aussi du devenir du service public des transports. Et quand on voit que les réseaux de TER sont dans une situation qui est quand même très compliquée, les infrastructures se détériorent. Je ne suis pas du tout une experte des transports ferroviaires, mais en tout cas, je sais qu'on peut dire que la situation n'est pas favorable au développement du transport ferroviaire et que des investissements massifs sont nécessaires, notamment dans le cadre... Enfin, il y en a qui sont envisagés dans le cadre des plans de relance, mais malheureusement, je crois qu'ils sont insuffisants. Je pense que la grève, là, reflète aussi les conditions de travail et les conditions de développement du système ferroviaire français.
Jean-Hervé Lorenzi, le manque de moyens justifie les mouvements de grève?
On a un petit problème de méthode, si vous m'autorisez. Bien sûr. On ne peut pas mettre ce mot de siège public, on ne peut pas mettre un fourre-tout. Quand je vois les infirmières, quand je vois les médecins dans les hôpitaux, les sièges publics, je suis catastrophé de la manière dont les choses se passent. Je n'ai absolument pas le même sentiment vis-à-vis de la SNCF. On peut quand même parler normalement des sujets. Ce n'est pas parce que je dis que c'est un usager que je suis dans une espèce de religion où je dois adorer. Je suis très défenseur du service public. Je suis atterré de la manière dont notamment une partie du système de santé est aujourd'hui très perturbée. Je pense absolument pas que cette affaire de SNCF, qui dévalorise d'une certaine manière les revendications totalement légitimes il faut arrêter de mettre tout dans le même sac. Je veux dire, les agents de la SNCF, ils sont dans un univers qui est pour partie concurrentiel. Je ne peux rien, c'est comme ça. Il y a des trains qui circulent un peu partout et qui viennent d'autres partenaires. Ils sont, c'est vrai que le réseau, on a pas suffisamment investi. C'est un problème qui peut se traiter autrement qu'en bloquant, comme par hasard, exactement le moment où les petits Français... Moi, j'ai une bagnole, je peux partir comme un grand, mais il y a plein de gens pour qui ça pose un problème. Non, je veux dire, ne mélangeons pas tout, ne mettons pas tout dans le même paquet. Je veux dire, entre l'agent de la SNCF de base, qui part effectivement à la retraite assez facilement, et l'infirmière qui est sous-payée, qui a un job infernal, il n'y a rien à voir. Il faut arrêter de mythifier le service public. Il y a des services publics et il y a des gens qui poussent le bouchon un peu loin. Et tout le monde le sait, tout le monde le pense. 90% des Français pensent la même chose que ce que je suis en train d'exprimer. Moi, je pense qu'il faut se battre comme des malades sur l'hôpital, sur la formation, sur l'école, sur le truc. Et il faut arrêter ces bagarres de 19e zone qui sont en réalité un moyen de pression de gens qui sont... J'allais dire pas du tout dans une situation catastrophique. Le réseau peut-être, mais ce n'est pas le sujet de la grève de demain. De la grève d'aujourd'hui, c'est une grève sur les rémunérations. Point.
Pierre Mauby, ce n'est pas possible de trouver une uniformisation. Il n'y a pas une uniformisation.
Non, je crois qu'il faut savoir de quoi on parle. Pourquoi y a-t-il des services publics? Pour trois raisons.
On va définir les termes.
Pour trois raisons. La première, c'est de permettre à chaque habitant d'avoir accès en égalité à des biens et des services essentiels. La seconde, c'est d'avoir des rapports de solidarité et pas seulement des rapports marchands entre les habitants, entre nous. Et la troisième, c'est de préparer l'avenir à long terme. C'est ça les trois piliers du service public. Ça implique que l'autorité publique, les autorités publiques nationales, par la SNCF, régionales et locales, des autorités de transport régionales maintenant qui existent et européennes, faut pas oublier les autres, et il y a aussi la dimension européenne, définissent clairement quels sont les objectifs, quelles sont les finalités, quelles sont les missions, et décident d'y affecter les moyens dans le cadre budgétaire des équilibres entre toutes les préoccupations. Donc c'est pas, certains disent le service public n'a pas de prix. Oui, bien sûr, quand on... Mais il a un coût. Il faut donc qu'il y ait des arbitrages qui soient rendus.
160 milliards d'euros de déficit en 2021. Alors, le coût des le déficit public.
Oui, bah, attendez, il n'y a pas que les services publics.
Bien sûr. Vous avez cité l'Europe, ça m'intéresse, parce que vous êtes spécialiste de l'action publique et des services publics en France et en Europe. Cette définition, elle est la même?
Non, les histoires de chacun des pays sont des histoires nationales. Donc chacun a construit ses services publics, appelons-les comme ça de manière générique, à sa manière, à sa façon. Pour prendre l'exemple, deux exemples très concrets. En France, nous avions une entreprise publique de monopole public, EDF, pour l'électricité. En Allemagne, ils avaient 600 entreprises électriques, où il y avait quand même des missions de service public, mais pas du tout organisées de la même manière qu'en France. Et on pourrait, alors, dans tous les pays européens, il y avait des entreprises publiques de chemin de fer. Pas toujours efficaces, pas toujours efficientes. Et donc, certains États ont décidé, et au plan européen, d'ouvrir à la concurrence, de moderniser, pour ne pas que derrière des situations de monopole qui pouvaient se justifier, qui peuvent encore se justifier, par exemple pour le réseau électrique, derrière des situations de monopole, il n'y ait pas d'abus des uns ou des autres.
Et on va parler évidemment de l'ouverture à la concurrence. Jean-Hervé Lorenzi, alors ça va faire écho à, je pense, Lucie Casté, car c'est le porte-parole du collectif Nos Services Publics auquel vous appartenez, qui cite cette phrase. Est-ce qu'on met en priorité l'objectif financier ou les besoins des gens? Est-ce que c'est tout l'enjeu de cette question de la rentabilité ou non des services publics? Qu'en pensez-vous?
Penser et évoquer de cette manière-là, on n'en sortira jamais, parce qu'on vit dans une espèce de flou intellectuel. J'ai beaucoup apprécié ce que vous venez de rappeler, mon collègue qui est en train de parler sur les définitions du dispositif. On est une espèce de flou et on vous sort toujours le Conseil national de la résistance, le truc, etc. Enfin, tout le truc. Et moi, je suis un vieux, dans quelques années, je ne serai plus là. Je veux dire, on ne va pas vivre pendant des siècles sur une vision du monde qui était celle d'il y a un demi-siècle ou un peu plus d'un demi-siècle. Alors, moi, je suis absolument pour que l'on catégorise les dispositifs qui sont dispositifs dans lesquels il y a effectivement en réalité un monopole de fait et un monopole souhaitable. C'est le cas notamment d'une large partie de la santé, c'est une large partie de l'information. Et là, je suis absolument pour que le problème de l'efficacité de l'action, c'est-à-dire de la satisfaction des besoins, soit réellement la priorité. C'est évident que personne n'est parfait dans cette affaire-là. Il y a des trucs qui ne marchent pas, mais qui ne marchent pas aussi de la faute des fournisseurs de services. Et puis, il y a après ce que vient de réévoquer l'interlocuteur, qui est avant moi, qui rappelle qu'il y a l'électricité, mais l'électricité est en concurrence, pas sur le réseau, mais sur la fourniture de services. Objectivement, ça n'a pas bien marché. Mais ça n'a pas bien marché globalement. Ça ne marche pas parce que ça coûte cher, plus cher que ça coûtait pour nous, les usagers ou les clients. C'est des clients, on est des clients. Et deuxième aspect, on a un EDF qui est en train de mourir à petit feu. Mais il ne meurt pas à petit feu uniquement parce qu'il n'a pas les moyens. Il meurt à petit feu parce que ça ne s'est pas bien passé. Ça arrive, toute communauté a des failles. Et puis, il y a la SNCF dont vous avez parlé, où là aussi, je trouve, c'est en concurrence. Il faut arrêter de raconter trop de mythes. Trop ces services publics, ça n'a rien à voir avec ceux pour lesquels il faut prioriser, pour répondre à votre question, la satisfaction des besoins des Français, en l'occurrence, c'est-à-dire évidemment la santé, évidemment la formation, évidemment il y a quelques services. Le reste, les services, c'est les transports.
Est-ce que je peux me permettre d'intervenir?
Alors, je vais vous donner la parole, Lucie Castel. En tout cas, on a bien compris, Jean-Hervé Lorenzi, que selon vous, il n'y a pas un service public, mais des services publics, et que vous mettez de côté, par exemple, éducation, santé, par rapport aux questions de la SNCF. Mais Lucie Castel, vous en pensez quoi quand il dénonce un manque de modernisation des services publics? Est-ce que les services publics français doivent se moderniser pour redéfinir si la mission de service public doit être redéfinie?
Écoutez, M. Lorenzi, tous les gens qui sont en faveur d'un développement des services publics ont une pensée archaïque, peu importe, je développerai moi une pensée propre. Déjà, c'est très intéressant que vous contestiez le fait qu'il y a une dimension de service public dans les transports collectifs, les transports en commun. Je partage tout à fait la définition qui a été donnée par M. Bobby sur ce que sont les services publics. Et j'aimerais dire que je trouve que c'est une définition qui s'applique partout en Europe. Simplement, les différents pays européens n'ont pas fait le même choix en matière de sociabilisation des dépenses. Et on pourra y revenir. Mais pour revenir sur les transports, je trouve ça assez cocasse de dénuer tout aspect de service public à ce secteur-là. Excusez-moi, je poursuis. D'une part, on sait très bien que sans investissement public massif dans ces infrastructures-là, et c'est la théorie économique de base, les acteurs privés n'ont pas suffisamment de rentabilité attendue pour investir à leur tour, et donc on a besoin d'un service public des transports qui est assez développé. Et ensuite, sur la façon dont on opère ces transports, on peut en discuter. Et par ailleurs, pour revenir aux besoins des gens, aux besoins quotidiens des usagers, ce sont des transports qui auront vocation à se développer de manière extrêmement importante dans les années à venir, compte tenu du changement climatique. On va devoir s'appuyer sur un service public des transports qui est beaucoup plus développé, parce qu'il faut accompagner le changement climatique et a priori, on n'aura pas tous une voiture demain et c'est plutôt une bonne chose. Par ailleurs, j'aimerais revenir sur la question du niveau de dépenses. C'est intéressant de parler de ça, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Se focaliser sur le niveau des dépenses publiques, ça ne permet pas du tout de rendre compte des dépenses totales engagées pour une politique donnée. Et c'est là que je parlais de la question de la socialisation des dépenses. En gros, quand c'est pas l'État qui paye, c'est le citoyen qui paye directement. Et donc, ça n'a pas de sens d'opposer ici, en termes de coûts, services publics et services privés. En matière de santé, par exemple, les dépenses publiques aux États-Unis sont plus faibles, mais le citoyen américain paye deux fois plus que le citoyen français, pour une espérance de vie, au passage, nettement moindre. Ça, c'est très important de le noter et ça permet de ne pas confondre tout ce dont on parle. Et comme vous l'appelez de vos voeux, M. Lorenzi, il faut définir les choses et parler précisément.
Est-ce que la difficulté, c'est de trouver le bon équilibre entre l'investissement et les dépenses publiques? L'investissement pour les services publics et les dépenses publiques.
Ce qui est certain, c'est que pour les services publics, on a besoin d'un investissement public. Comme je le disais tout à l'heure, parfois il n'est pas rentable pour le secteur privé d'investir, et donc il est fondamental que l'investissement public ait lieu. Notamment, l'investissement vient beaucoup des collectivités territoriales. Et en ce qui concerne la dépense, ben, il faut fixer le niveau de dépense en fonction du besoin qu'on estime nécessaire. Et le niveau de dépense, en fait, il vient des impôts. Enfin, c'est de notre capacité à lever l'impôt et de notre volonté à lever l'impôt et du consentement à l'impôt des citoyens.
Jean-Hervé Lorenzi.
Oui, je peux pas, pardon, laisser dire un, je n'ai jamais dit que la pensée était archaïque, j'ai dit qu'elle s'est évoluée, la vie évolue. Dans 50 ans, on pensera pas la même chose qu'aujourd'hui, c'est la vie. Ça n'a rien à voir avec l'idée de critiquer, parce que je ne permets jamais une position. J'ai juste dit que par rapport à ce qu'avaient été les fondements de la réflexion d'il y a 50 ans, c'est pas illégitime. Deuxième aspect, je suis quand même surpris, évidemment que je suis favorable à l'idée qu'on développe les transports, mais je vous rappelle que là, je sors de la gare. J'ai payé tout à l'heure un ticket et pour un TGV. Et ce TGV qui allait de Marseille à Paris, il a un prix, il augmente. Donc tout ça veut dire, et la SNCF, à certains moments, a été, en tout cas, au moins une année rentable. Donc l'idée qu'une entreprise publique ne puisse pas être rentable, c'est une idée...
Ces dernières années, la SNCF a eu un bilan positif, excusez-moi.
Bien sûr, pas du tout très bien.
Déficitaire.
La question du prix des billets de train est intéressante.
Si vous me permettez juste de terminer, ça veut dire que puisque nous disons ça, les mots ont un sens. Si nous disons que la SNCF a été rentable, ce dont je me réjouis, et je pense qu'il faut bien partager après ça la valeur ajoutée avec tous les gens qui y ont participé, il est clair qu'on n'est pas dans un espèce d'univers mythifié comme le hôpital ou comme
oui. On a compris les différenciations que vous faites.
Voilà. Il faut arrêter de mélanger tout. Il y a un moment où ces entreprises publiques, EDF, etc., on paye, vous payez le kilowattheure vaut un certain prix. C'est une chance qu'on ait un kilowattheure qui était auparavant pas très élevé. Tant mieux, parce qu'on a investi. Et arrêtons de considérer qu'on ne peut pas parler normalement de ces entreprises. Il n'y a pas, il n'y a pas quelque chose qui sort de, qui est au là de toute rationalité humaine qui serait le transport par la SNCF ou pas, ou la fourniture d'électricité par EDF, je n'y crois pas. Et je pense qu'on ne rend pas service au service public en sortant ce genre de position.
Lucie Castet, le co-organisateur du printemps des services publics, affirme « Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas ». Or, pour faire écho à ce qu'a dit Jean-Hervé Lorenzi, effectivement, on parlait des billets de train, ils ont augmenté de 14,6% entre avril 2021 et avril 2022, selon l'INSEE. Un Paris-Marseille, si on s'y prend quelques semaines à l'avance, ça peut être autour de 116 euros. Ouais, est-ce que ça, on ne sort pas de la mission de service public ?
C'est très intéressant. J'allais répondre à Jean-Hervé Lorenzi que je ne critiquais pas la rentabilité de la SNCF ou sa bonne santé économique et financière par principe. Simplement, ce que nous, on dit, c'est que la rentabilité ne doit pas être l'objectif de premier rang d'une entreprise publique. Et comme le rappelait M. Bobby tout à l'heure, il y a une question d'universalité du service produit. Et je pense qu'on peut considérer que lorsqu'on parle de service public, on ne doit pas avoir une qualité de service ou un accès des services, aux services pardon, qui est dépendante de ses revenus. Or, lorsqu'on augmente beaucoup les tarifs, de fait, le service devient inaccessible à beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de payer ses billets. Et donc, je considère que lorsqu'on a une entreprise publique, lorsqu'on a un service public, il est important que la politique de tarification permette l'accès de tous aux services. Et c'est pour ça que je considère que, que l'objectif de rentabilité ne peut pas primer sur les autres.
Pierre Bobby, cette question elle est intéressante sur les limites finalement du service public et on dit qu'il doit être au plus près des gens et en fait à un moment, je parle pour le train, ça, on n'est pas loin des prix de l'aérien.
Répondre aux besoins de chacun, c'est répondre au cas par cas. Bon, avec des principes généraux qui permettent l'accès de tous à égalité, quelle que soit sa situation et ses revenus, à ce service essentiel, quand il est défini comme tel.
Mais ce n'est pas toujours le cas, du coup.
De ce point de vue-là, le citoyen ne fait pas des silos entre le transport, la santé, l'éducation. En tant que citoyen, il a un droit au service public parce que c'est nécessaire pour vivre ensemble dans la société aujourd'hui. Bon, alors, ayant défini ça, ayant défini les missions de service public, il y a ensuite des arbitrages à rendre en matière de financement. C'est vrai qu'on ne peut pas... Enfin, certains ont rêvé et certains disent le service public doit être gratuit. Ben, S'il est gratuit, ça veut dire qu'il est payé par les impôts. Bon, on voit bien, les communes qui ont rendu leur bus gratuit, c'est plus l'usager qui paye, c'est le contribuable. Enfin, il y a quand même quelqu'un qui le paye. Il y a donc des arbitrages à rendre. Il faut savoir si les priorités aujourd'hui sont de financer ces services collectifs. Alors, on parlait du chemin de fer. Quand on voit les enjeux de changement climatique et d'émissions de CO2, il doit y avoir encore plus de priorités.
Et donc plus de financement.
Pour, de financement.
Pour alléger le coût du billet.
De financement. Parce que c'est une priorité nationale et internationale maintenant. C'est reconnu par la Conférence de Paris. Et donc, qu'il y ait des subventions élevées qui soient données au chemin de fer ou au transport de bus en ville, ça me semble être une priorité.
Oui, en plus, c'est encore efficace plus économiquement, hein, parce que c'est un investissement qui ensuite, c'est un investissement qui ensuite portera ses fruits parce qu'on polluera moins et on réduira l'impact sur le climat. Et donc, ça évitera des dépenses à l'avenir.
Est-ce qu'on peut parler de l'ouverture à la concurrence ? Il y a fait référence Pierre Bobby. L'Union européenne a parlé de services d'intérêt économique général, SIEG. Oui. Les activités rentables transférées au privé, les activités non rentables subventionnées par les États, globalement.
Non.
Alors, Lucie Castet, j'aurais d'abord votre avis sur cette ouverture à la concurrence. Comment vous la jugez ?
C'est dur de manière abstraite comme ça, mais enfin, il y a eu des échecs. D'ailleurs, M. Lorenzi l'a dit lui-même, hein, il y a eu des échecs. Moi, ce que j'aimerais qu'on rappelle, c'est que quand même, les règles de concurrence, l'imprégnation du droit public par des règles de concurrence, le droit de la concurrence, a rendu difficile l'exercice de certaines missions de services publics. Et ça a conduit à mettre des services publics ou des entités publiques, des entreprises publiques en concurrence avec des entreprises privées qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui ont des objectifs de rentabilité en premier objectif, ce qui est normal. Et donc, parfois, ça a conduit à détériorer la qualité du service public qui pouvait être rendu de ce fait. Et donc, on peut avoir une vision critique avec le recul. Je ne dis pas que c'est toujours mal, mais simplement, c'est le résultat est très nuancé.
Rapidement, après, j'aimerais avoir l'avis de Jean-Hervé Lorenzi sur le sujet.
Sur les règles d'ouverture à la concurrence. Oui. Parce que le monopole, ce n'est pas l'idéal absolu. Le monopole peut abuser cette situation de monopole. Et donc, un peu de concurrence dans certains secteurs, ça permet de moderniser, d'être plus efficace. Mais ce n'est pas la concurrence privée contre public. Les missions de services publics peuvent être accomplies par les entreprises publiques ou par les entreprises privées. Ce qui compte, c'est les missions et comment ces missions, aujourd'hui, sont définies et financées.
Jean-Hervé Lorenzi, comment ouvrir à la concurrence sans mettre en péril les services publics ?
Moi, je suis, ça va peut-être vous surprendre, je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs faites sur la concurrence et notamment sur les affaires d'énergie. Je voudrais juste rajouter un petit mot parce que notre débat est absolument passionnant et moi, je ne suis pas sûr d'avoir la vérité, donc je suis très modeste là-dessus. Mais vous ne pouvez pas empêcher qu'à partir du moment où quelque chose devient marchand, c'est très compliqué de traiter de la même manière ce qui est du domaine du marchand. On peut penser que le ticket le billet de train est trop, le prix est trop élevé, mais c'est un prix, qu'on le veuille ou non. On est dans un univers qui n'est pas celui du moment où on va à l'hôpital et où on est pris en charge à 100% ou de manière pour peu que. Donc on ne peut pas traiter des sujets de la même manière. Moi, je pense, un, qu'il faut défendre massivement le service public là où il est très important. Il y a des domaines où il ne faut pas imaginer que la vie, les individus sont tous vertueux, on n'est pas plus que les autres. Il y a des entreprises publiques qui ne marchent pas bien et qui, franchement, si je regarde ce qui s'est passé sur le problème d'énergie, c'est quand même pas top ce qui s'est passé, qu'on le veut ou non. Et donc, l'idée qu'on puisse juger, pour juger, il faut bien quantifier. Et quantifier, on quantifie parce qu'il y a eu des prix, des ceci, ça, dans le domaine marchand. L'électricité, elle est vendue. Elle n'est pas l'objet d'une sorte de magie dans laquelle on transférerait. À partir du moment où on regarde ça, on peut regarder si ça marche, ça ne marche pas. Et les endroits où les services publics ne marchent pas, exactement, enfin les services publics, où les entreprises dites de services publics ne marchent pas très bien, il faut qu'on puisse juger de leur qualité. Je veux dire, je trouve qu'il ne faut pas de naïveté dans cette affaire-là. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Un mot de la fin, rapidement, quelques secondes.
Ouais, en tout cas, moi, je pense que la question qu'il faut poser, c'est est-ce que les services publics marchent ou marchent pas, mais à quel aune et l'aune, le filtre, c'est on répond aux besoins des citoyens.
Eh bien,
est-ce
merci
que
beaucoup.
Les services publics répondent aux besoins des gens. Ça, c'est ça,
on a ça compris le critère. Cet enjeu. Merci beaucoup, Pierre Bobby, docteur de l'IEP de Paris. Merci, Lucie Castet, porte-parole du collectif Nos Services Publics. Et Jean-Hervé Lorenzi, qui était en ligne avec nous, fondateur du Cercle des économistes. Florence Ponce, comme chaque soir, à la préparation de ce débat. Laurent Philippot à sa réalisation. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur RFI.fr pour réécouter, podcaster ce débat du jour. Restez à l'écoute, RFI.